séances de ces ciné-conférences uniquement autour des films de Frédéric Wiseman. On va voir Basic Training, parce que vous avez vu que tout ça était dans un joyeux désordre chronologique. C'est un peu les invitations qui ont décidé de l'ordre chronologique des films. Et on reçoit aujourd'hui Diana Gay, je vais commencer par une petite partie de ses activités, mais c'est une collègue programmatrice qui a notamment mis en œuvre et aussi en musique une très ambitieuse et importante programmation, Tigritude. Je ne sais pas si tu auras l'occasion d'en parler, mais voilà. Et Diana est surtout cinéaste, et je cite, je disais tout à l'heure qu'elle ne fait pas du tout assez de films, mais je pense qu'elle est aussi d'accord avec cela. Et donc je cite Un transport en commun et Des étoiles, son dernier film en date. Et donc, merci beaucoup, Diana, de te prêter, comme tous les autres invités, au jeu de ces ciné-conférences, de venir partager ton regard sur Wiseman et précisément Basic Training. Si tu as peut-être un petit propos introductif, on te laisse la parole. Et donc, vous pouvez accueillir Diana Gay.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent en ce mercredi après-midi gris. Vous ne m'entendez pas bien. Alors, je vais parler un peu mieux en face. Je vais le tenir, en fait. Aussi. Je peux le tenir, c'est plus simple. Est-ce que là, ça va? Voilà. Rebonjour. Je voulais commencer par une petite salve de remerciements, en premier lieu à Arnaud, et ici présent, et à la BPI du Centre Pompidou, pour cette invitation qui me touche beaucoup. Voilà, je suis très en joie d'être ici et de partager cette séance avec vous. Je suis très intimidée aussi, mais bon. Remercier le HESS aussi, évidemment, qui participe à ces rendez-vous du mercredi. Je tenais à remercier Mathieu Berton et toute l'équipe de Météor Film, qui sont les distributeurs de l'œuvre de Frédéric Wiseman, toutes les petites mains qui ont contribué à fabriquer cette extraordinaire rétrospective, de la rendre possible. C'est un immense cadeau pour les amoureux du cinéma de Frédéric Wiseman, dont je fais partie, mais aussi pour ceux qui le découvrent, et de pouvoir être témoin de cette mise en partage. Donc pour tout ça, voilà, je voulais vous adresser mes chaleureux remerciements. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et là depuis le mois de septembre que cette rétrospective a démarré autour de Frédéric Wiseman. Je vais faire une très brève introduction. Je dirais qu'évidemment, et c'est presque un euphémisme, Frédéric Wiseman est un filmeur exceptionnel. Son œuvre immense est une immense fresque, certes, sur les États-Unis, sur la France, mais plus largement sur nos sociétés contemporaines. Dans les microcosmes qu'il s'attache à décrire, on y voit toujours toute l'humanité, nos humanités, pour reprendre le très beau titre, sous-titre de cette rétrospective. Pour moi, les films de Frédéric Wiseman nous regardent. Ils nous regardent, ils nous invitent à être toujours plus attentifs, plus éveillés, à être plus altruistes d'une certaine manière, à être conscients, à être actifs et tout simplement à être vivants. Et dans les temps que nous traversons, troubles, chaotiques, il me semble que son œuvre est infiniment précieuse. Vous allez voir ou revoir Basic Training, un film qui date donc de 1971, moi que j'ai découvert très tardivement grâce à un ami collectionneur qui m'en avait partagé un fichier. À cette époque, je connaissais beaucoup plus, puis je reviendrai tout à l'heure, le cinéma de Wiseman qui m'est contemporain. La question de la violence sous-tend toute l'œuvre de Frédéric Wiseman, depuis son tout premier film, Titty Cat Follies. Celui que vous allez découvrir là appartient à son, au corpus de films qu'on dirait militaires, qui interroge en tous les cas l'institution militaire américaine, la représentation des États-Unis à l'étranger, avec des films comme Missile, Manœuvre, Sinai Field, qui sont présentés également là dans cette première partie de rétrospective. Je dois vous avouer que ce n'est pas le corpus que j'ai le plus naturellement investi, ce corpus sur les films militaires, mais c'est vrai que Basic Training a été une rencontre très forte, voilà, dans mon chemin de cinéma et dans ma rencontre avec le cinéma de Wiseman. Je voudrais reprendre, j'ai découvert là, en préparant cette séance, une série d'émissions qui ont été menées par Hélène Frappa au milieu des années 2000, en 2008, pour France Culture, que je vous recommande vivement. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, il y a des nuits de France Culture et des podcasts autour de Frédéric Wiseman et de ses entretiens qui sont très beaux. Et la cinéaste Marie-Claude Treilloux a une formule que je voudrais citer ici aujourd'hui, que je trouve extrêmement juste. Elle dit, en parlant de la méthode Wiseman, qu'il dissèque jusqu'à faire rendre gorge. Et que de mettre tous les mécanismes à nu, en fait, permet de cette mise à nu jusqu'à ce qu'en fait, ça parle d'autre chose que ce qu'on nous donne à voir. Et que ça nous donne à voir et à parler de l'âme d'une nation. Et je trouve que Basic Training n'y fait absolument pas exception. Et je suis très heureuse de, voilà, à nouveau, de partager cette expérience de cinéma aujourd'hui avec vous. Et je serais ravie de dialoguer à l'issue de cette projection avec ceux qui souhaiteront y participer. Merci encore et à tout à l'heure. D'accord. Absolument. J'ai un petit peu envie de reprendre sa respiration après la vision de ce film. Je vous proposerai comme déroulé peut-être de commencer par vous parler de ma relation à l'œuvre de Frédéric Wiseman, enfin, dans tous les cas des résonances que je trouve avec mon travail, et puis ensuite justement pour laisser un peu le temps de décanter la vision de Basic Training, on abordera plus en détail ce film précisément. Je me permets de rappeler en introduction, pour ceux qui l'auraient manqué d'ailleurs, que je vais parler de mon endroit de réalisatrice, de cinéaste. Je ne suis pas universitaire, ni théoricienne du cinéma, ni même spécialiste de l'œuvre de Frédéric Wiseman. Donc j'ai vu un certain nombre de films, mais toujours pas tous. J'ai étudié le cinéma pendant plusieurs années à Paris 8, à l'université. Je n'y ai pas rencontré le cinéma de Wiseman, étonnamment. Vraiment, c'est encore quelque chose qui me surprend. Je l'ai rencontré assez tardivement, au début des années 2000, avec un film contemporain de l'époque, un de ses films qui s'appelle Domestic Violence. Donc, c'était en 2001 ou 2002, me semble-t-il. À l'époque, autour de mon activité de cinéaste, j'ai exercé différents métiers. J'ai été assistante d'attaché de presse, et en l'occurrence de l'attachée de presse de Frédéric Wiseman, qui est Viviane Andriani, qui est une de ses fidèles collaboratrices depuis l'époque. Donc c'était assez surprenant et très intimidant pour moi, parce que je rencontrais à la fois le cinéma de Frédéric Wiseman, mais je le rencontrais aussi à ma toute petite échelle, puisque j'étais assistante et que je participais à leur organisation de ces rendez-vous de presse, mais j'ai été extrêmement impressionnée par ce film que je découvrais, un film d'une intensité et d'une densité assez exceptionnelle, tourné en Floride, donc dans un centre d'aide aux victimes conjugales. puis, dans la continuité de ce travail d'attaché de presse, j'ai retrouvé Frédéric Wiseman à Berlin avec un autre film qui est aussi un film, entre guillemets, de chevet pour moi, qui s'appelle State Legislature. Ça, c'était en 2006. Voilà, c'était deux expériences très différentes, mais à la fois assez complémentaires dans la manière dont elles abordent aussi des lieux clos, des institutions. Deux expériences extrêmement passionnantes que j'ai vraiment éprouvées dans mon corps. Et je le ressens encore aujourd'hui, il y a vraiment cette sensation là, à voir le film par ailleurs en salle, que je découvrais pour la première fois en salle, et dans cette magnifique copie restaurée. Le cinéma de Frédéric Wiseman, pour moi, il s'éprouve vraiment dans notre corps, dans mon corps en tous les cas. Frédéric Wiseman disait notamment à l'époque de Domestic Violence que pour lui, rendre compte de l'expérience ordinaire l'intéressait au plus haut point. Ça a été pour moi aussi un point de départ pour mon premier court-métrage qui s'appelait Une femme pour Souleyman, que j'ai tourné près à l'époque au début des années 2000, qui raconte l'exil d'un jeune Sénégalais à Paris et comment ce jeune homme s'invente finalement une vie tout à fait ordinaire dans son quotidien, qui est celui du quotidien d'un exilé qui lutte. Donc pour l'exercice voilà, de la préparation de cette conférence, j'ai essayé de réfléchir comme ça les points de résonance que je trouvais comme ça. Je me suis prêtée au jeu d'interroger au fond de moi ce qui résonnait très fort dans le cinéma de Frédéric Wiseman, par extension dans mon travail et dans l'approche de notre outil commun. La première vraie résonance que je vois, c'est la question du lieu, du territoire. Alors, à chaque film, Frédéric Wiseman lui définit un périmètre, que ce soit une institution, que ce soit une communauté, que ce soit un quartier, que ce soit un camp d'entraînement, comme on le voit ici dans Basic Training. Et il n'est pas tout à fait question de le déborder, en fait. Il dit qu'il y a ce périmètre défini, que le film qu'il fabrique se passe dans ce périmètre, ce qui se passe en dehors du périmètre est un autre film. Il prend souvent l'exemple d'un terrain de tennis qui me parle beaucoup avec ses lignes, ses délimitations. Et effectivement, quand la balle est dehors hors de ses lignes, on est à un autre endroit. Moi, j'écris toujours à partir de lieux. C'est le moteur d'à peu près tous les films que j'ai pu réaliser. Y a d'abord le lieu, et du lieu découle le sujet, découle le récit, découle des personnages, des situations. Je fais à cet endroit le chemin parfaitement inverse de Frédéric Wiseman, parce que lui, il prépare très peu ses films. Moi, je documente beaucoup. Je travaille beaucoup, beaucoup en amont. Je travaille la fiction pure. Et pour qu'elle puisse cohabiter, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi avec le réel, j'anticipe voilà, un travail de préparation qui est souvent très très long, autour de photographie, autour de carnets, de recherche. Voilà, c'est vrai que lui n'anticipe pas cette... et à juste titre quand on voit ses films, c'est-à-dire qu'il anticipe très peu. L'idée des repérages, c'est aussi un endroit pour obtenir des autorisations, et que l'expérience qui doit se dérouler et avec laquelle il va fabriquer ses films, elle se passe au tournage, pas en préparation. Mon désir de cinéma, je le dis souvent, il vient de la comédie musicale. J'ai étudié la musique, la danse pendant de nombreuses années, et mon approche cinématographique situe vraiment au carrefour de ces différentes pratiques artistiques, de ces différentes vocations. La comédie musicale, c'est un genre extrêmement codifié, très millimétré. Là aussi, d'une certaine manière, on pourrait parler d'un périmètre à ne pas déborder dans l'application de ces codes, de séquences musicales notamment. Ça se prépare beaucoup, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une manière aussi pour moi, c'est comme si c'était déposer une fiction en préparant, je ne fais pas que de la comédie musicale, hein, je fais aussi des films, mais la musique a une place très importante toujours dans mon écriture. C'est de déposer, c'est comme si je déposais d'une certaine manière la fiction dans le réel pour que ce réel puisse s'inviter et puisse saisir ce moment d'interaction entre les deux. Je tourne beaucoup en décor naturel aussi au Sénégal, qui est le pays que j'interroge depuis mon premier film, qui est puis mes origines par ailleurs, même si j'ai grandi à Paris. L'autre endroit, en parlant de lieu et de territoire, qui résonne aussi évidemment beaucoup chez moi, c'est les États-Unis. C'est le territoire de mon imaginaire. Donc je disais, des origines au Sénégal, j'ai grandi en France, un parcours et une histoire familiale d'exil. C'est évidemment un pays continent, celui qui a vu naître Frédéric Wiseman et qu'il continue d'interroger. Donc moi, c'est vrai que c'est un endroit, ça a été un endroit et c'est toujours un endroit de construction. J'ai grandi en France dans les années 80, à une époque où il était quand même, mais il est toujours à mon sens, très compliqué d'envisager et de trouver des points d'identification. Les miens ont été très tôt vers les États-Unis, que ce soit la littérature noire américaine, le cinéma, à l'époque les années 80-90, on était vraiment dans des explosions de cinéastes comme Spike Lee, ça a été aussi Charles Burnett, de l'autre côte ouest américaine, des rencontres littéraires évidemment, avec James Baldwin, Richard Wright, Maya Angelou, des endroits comme ça où j'arrivais à me projeter et à envisager, malgré les énormes différences qui séparent la société française et la société américaine, des points de représentation. Et la musique aussi, je le disais, le jazz qui irrigue un peu tout mon travail depuis ses débuts, qui irrigue ma vie tout simplement, et évidemment dont les États-Unis sont le berceau. C'est évidemment le territoire de toutes les contradictions, de tous les paradoxes, les États-Unis d'Amérique, mais c'est aussi pour ça qu'il m'intéresse et autant et qu'il continue d'attiser ma curiosité. Et puis, comme je le disais, c'est un pays continent immense, il y a 50 États, je pense que Frédéric Wiseman en a au moins visité près d'une trentaine à travers son œuvre. Ils ont ces États en commun une constitution, mais ils divergent en beaucoup, beaucoup d'endroits. J'ai tourné une partie de mon premier long métrage, Des étoiles à New York. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, à titre plus personnel, aux États-Unis. Mais c'est vrai que j'accéderai jamais, absolument jamais, à la matière que convoque Frédéric Wiseman dans son cinéma, dans son œuvre américaine. Ces films sont autant de fenêtres ouvertes sur des États, des villes, des communautés, donc des institutions, des organisations, des personnes évidemment. Et de par sa méthode qui est absolument unique, qui nous donne aussi à vivre des expériences qui sont absolument extraordinaires, qui s'attachent à décrire avec une grande attention, avec une sensibilité extrêmement rare, une éthique, une intelligence tout aussi rare. Donc, le territoire, comme je disais, que j'ai choisi moi d'interroger, c'est le Sénégal, où je n'ai jamais vécu, pour le coup, que je questionne à travers mon travail, à travers mes films, où j'essaye aussi d'ouvrir des fenêtres, de fabriquer des passerelles. Je dis souvent, et je le redis aujourd'hui, j'ai le sentiment que je viens d'un pays qui n'existe pas, de par aussi mon histoire familiale. Donc je le disais, je suis née à Paris, ma mère est métisse, italo-malienne, sénégalaise, mon père est sénégalais. Mon travail se situe principalement, en tous les cas, le point de départ est le Sénégal, mais il y a ces ouvertures et ce dialogue permanent aussi avec l'ICI, où je grandis, où je vis. Et c'est vrai que c'est un moteur finalement dans ma pratique cinématographique que d'une certaine manière d'envisager cet endroit qui n'existe pas, comme je le disais, et que seul le cinéma finalement me permet d'envisager quand on me laisse comme quand on me laisse le faire et voilà, le pratiquer en tous les cas, le regarder et donner à voir comme je l'entends. C'est un cinéma qui est le mien, j'y reviens, en mouvement, toujours en mouvement, traversé par les notions d'héritage, évidemment aussi, et par les traces. Ça, c'est des choses dont je me suis rendu compte a posteriori, car comme je le disais, je ne pars pas d'un sujet où, mes films se construisent pas autour d'un message, mais encore une fois, à partir des lieux et d'un instinct comme ça qui me fait y convoquer des territoires, des personnages pardon, et des situations. Un autre point de résonance que j'ai trouvé, c'est l'idée de la chronique. De la chronique et du romanesque. La chronique, donc de la chronologie des événements, quand une fois on revient à Basic Training, par exemple, qu'on vient de voir, qui se déroule, j'en reparlerai tout à l'heure, mais dans une grande chronologie des événements qui associe ces, voilà, ces gens dans cette base d'entraînement. J'ai souvent lu à propos de Frédéric Wiseman, qu'il était entre guillemets un explorateur des États-Unis. Il y a vraiment dans cette terminologie une dimension presque ethnographique ou anthropologique que j'aime pas beaucoup. Je lui préfère très largement le terme de chroniqueur, avec l'idée que la caméra est là pour un temps donné, un temps précis. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a ce temps, voilà, cette chronologie de l'observation, de l'attention qui se déroule et qui l'organise à sa manière très particulière, puisqu'il y a une méthode, il a sa méthode, et qui embrasse très fortement aussi la question de l'écriture au montage, qui est un temps très particulier dans le processus de travail de Frédéric Wiseman. Il prend des mois, voire une année pour monter ses films en moyenne. Donc autant dire que voilà, c'est un travail extrêmement minutieux d'organisation des événements du tournage et un travail, oui, romanesque, je dirais, car il y a vraiment cette idée qui le formule d'ailleurs lui-même, hein, il parle de reality fiction, que je trouve une expression très belle, de réalité fiction, puisque cette matière finalement est organisée par ses soins au montage et que évidemment c'est des choses qu'il a pensé aussi en mise en scène au tournage. Il y a quelque chose comme ça qui relève presque du théâtre et aussi du romanesque dans son écriture. Me touche beaucoup dans son cinéma le soin qu'il apporte aux personnages, au collectif. L'idée d'un cœur de personnages, de films qui se présenterait sous une forme chorale. Il y a une exception un peu à la règle très, tout à fait récente dans City Hall, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui se passe à Boston, autour du maire de Boston, mais qui du coup voilà, ressent véritablement, évidemment qu'autour de ce maire, c'est toute une organisation, une institution, mais on suit véritablement, ça c'était assez nouveau en tous les cas dans ma lecture, du cinéma de Frédéric Wiseman, de suivre un personnage autour duquel s'en agrègent évidemment toujours d'autres, mais voilà, il y a une figure centrale. Très souvent, et c'est le cas ici encore, même s'il y a des personnages, on en reparlera vraiment, qui émergent de basic Training, pardon. c'est un film choral. Ça, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur dans mon travail, que ce soit dans Un transport en commun ou dans mon métrage des étoiles, dans le film sur lequel je suis en train de travailler, qui est à nouveau une comédie musicale et un film choral. C'est la possibilité, à travers un cœur de personnage, un film choral, de représentations multiples. Je reviens à cette question que j'ai évoquée un peu plus tôt de la possibilité d'une identification qui avait été très complexe pendant mon adolescence, et je pense qu'il se retraduit aussi à cet endroit, c'est-à-dire que le cœur a de multiples têtes et qui permet au plus grand nombre de pouvoir se projeter, s'identifier entre guillemets, en tous les cas dialoguer avec ces personnages. Voilà, le cinéma de Frédéric Wiseman, c'est aussi la possibilité pour moi de voir des personnes qui me ressemblent physiquement. Ça peut paraître étrange, mais c'est pourtant indispensable dans la construction qui, voilà, je reviens à mon adolescence, mais avec le temps, malheureusement, je fais le constat que les choses, en tous les cas, telles que je les perçois en France, n'ont pas grandement évolué à cet endroit, ou en tous les cas, pas au bon endroit à mon sens. Et c'est vrai que voilà, c'est le cinéma, la grande mosaïque de l'œuvre de Frédéric Wiseman me permet aussi cela, avec quand même, bien évidemment, parce que je suis un peu outillée, je ne suis pas en train de dire que l'histoire des Africains-Américains est mon histoire. Mais il y a en tous les cas un endroit de représentation et de projection possible, qui est déjà énorme. Frédéric Wiseman dit, envie de vous la lire parce que je trouvais ça très beau. Je m'efforce de lutter contre les stéréotypes, les préjugés, les clichés qui nous font fantasmer, croire que les autres sont différents de nous, d'une autre race. Quand je travaille, l'intéressant c'est ce que je trouve, pas ce que je pensais du sujet a priori. Il y a aussi toute l'idée de la nuance. Dans le travail de Frédéric Wiseman, comment représenter, recomposer la complexité de la vie, la complexité de l'être humain, à la fois tragique, toujours tragique et comique, comme la vie peut l'être en fait, et que le cinéma finalement il est aussi toujours, me semble-t-il, le reflet de la vie. Tout simplement, donc, la violence, comme je le disais en introduction, sous-tend vraiment quasiment toute son œuvre. Mais il a toujours cette rigueur d'en montrer toutes les composantes. C'est à cette échelle que je disais tout à l'heure aussi que c'est un véritable romancier du réel. Il filme le théâtre de la vie, mais il le filme véritablement dans tous ses recoins, sous toutes ses coutures, et il nous donne à voir véritablement l'ensemble. Pour mon film Des étoiles, donc, qui était un premier long métrage que j'ai tourné entre Dakar, Turin et New York, qui racontait les destins croisés comme ça d'une famille en exil, famille qui se croise. On m'avait souvent interrogé et reproché presque que le film ne soit pas assez dur. Il aurait fallu donc un des personnages qui arrivait à Turin, une jeune femme. Il y avait toujours cette dimension un peu misérabiliste. Cette jeune femme, elle aurait dû arriver, peut-être se prostituer. Il y avait quand même toute une dimension autour d'un des personnages qui passait par un réseau de passeurs pour arriver à New York, etc. Mais on me reprochait sans cesse, oui, mais quand même, la vie, comme si on devait toujours aussi réduire des personnages, des destins, en fait, quand même, avant tout, à des statistiques. Me concernant, particulièrement sur ces questions sensibles d'exil, d'immigration, effectivement, il aurait fallu être qu'à un seul endroit de la trajectoire et des destins de ces personnages, ne montrer que la face sombre. J'avais décidé d'en raconter aussi une face plus lumineuse, d'accueil, d'entraide entre certains personnages. Cette face-là, il aurait fallu, d'une certaine manière, en tous les cas, ça m'a été souvent adressé, ne pas la montrer, comme s'il fallait uniquement dénoncer un endroit et voilà, ne jamais montrer les deux faces. Et donc voilà, oui, effectivement, cette histoire de nuance, de dualité, d'antagonisme, c'est véritablement, je pense, qui nous permet de rendre compte de la complexité humaine, quoi. Et c'est ce que fait avec grande beauté Frédéric Wiseman. La dramaturgie, je vais aborder ça aussi dans son travail, est très forte, mais elle est sans intrigue. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure autour de l'idée de chronique. C'est aussi comment le spectateur ou la spectatrice se positionne par rapport à son cinéma et comment il arrive à permettre au spectateur de résister à ce qu'on lui impose une certaine lecture, à ce que nous soyons toujours actifs. C'est ce que je disais aussi en introduction. C'est une liberté évidemment qui est assez relative, parce que comme je le disais, il y a le cadrage, il y a le montage, il y a le point de vue, il y a la mise en scène évidemment de Frédéric Wiseman, mais le spectateur est toujours à l'intérieur de ce qui se passe dans l'événement, au centre de l'action, au centre de chaque séquence d'une certaine manière. Il y a c'est comme s'il n'y avait pas de barrière en fait, entre le sujet et nous, spectateurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi, à la fois dans son travail, mais de manière générale, qui au cinéma, pour moi, qui m'est très cher au cinéma. C'est-à-dire notre espace, notre liberté, notre capacité, la confiance qu'on peut donner au spectateur et à la spectatrice que d'interpréter avec évidemment tous les outils qui sont à notre disposition de cinéaste pour le faire le mieux possible. Enfin, il y a évidemment deux autres aspects qui me touchent beaucoup dans le cinéma de Wideman, c'est la danse et la musique, la manière dont elle s'invite dans son travail, la danse évidemment de manière très conséquente dans les œuvres qu'il a faites, notamment en France, à l'Opéra de Paris, au Crazy Horse. Et puis il y a eu ce film dans les années 90, je crois, tu me corrigeras peut-être, Arnaud Ballette, je ne me souviens plus, sur l'American Dance Company de New York. Ça, c'est aussi une dimension que je trouve extrêmement forte dans son travail, au-delà même des films qui se proposent d'investir la pratique de la danse au sens propre, c'est la manière dont l'attention qu'il porte au corps, en fait. Au corps, à la manière dont ils sont engagés à l'écran tout le temps. Alors, dans des films comme ceux sur la danse, l'opéra, etc., ils sont littéralement disséqués. Dans un film comme Basic Training, évidemment, il y a quelque chose de très, très puissant à l'endroit, dans la manière dont il investit les corps. Et ça aussi, évidemment, ça résonne très fortement avec mon travail autour de la comédie musicale, notamment, mais pas que. Et puis aussi, avec l'idée de pouvoir envisager le corps aussi et l'observer dans ses gestuels. C'est pas uniquement la danse, la pratique de la danse. Et, il disait aussi, j'avais lu une fois, que voilà, il y a aussi beaucoup comment se passer aussi de la parole et du dialogue par moment. Comment tout ça passe uniquement par un corps. Là, je pense, en revoyant Basic Training, par exemple, à ce geste de main que donne ce type qu'on vient de, à sa femme. Juste ces deux mains qui se touchent, qui se frôlent, par ces détails, par ces gestuels, qui racontent parfois tout autant ou même beaucoup plus qu'un dialogue. Voilà. Donc oui, il y a cette dimension, ce rapport au corps, ce rapport à la musique aussi, qui est très très souvent présent. Évidemment, il est en direct, ça qui est beau. Encore une fois là, dans Basic Training, on en a l'exemple. On est à l'endroit d'une institution militaire, donc d'harmonie militaire. Mais la musique a une présence très forte dans son écriture et elle rejaillit toujours d'une manière ou d'une autre. Voilà. Pour les grandes lignes, je vais passer un peu à l'analyse. Il y avait la littérature aussi, mais bon, c'est un peu long. Mais ça aussi, c'est un endroit qui résonne beaucoup pour moi. Frédéric Wiseman, il est beaucoup nourri des auteurs du 19e siècle, des gens comme Henry James, par exemple. Donc, notamment, c'est aussi la littérature, un pan de la littérature dont je suis le plus proche. Et donc tout, qui rejoint encore cette idée du romanesque. Pour parler de Basic Training qu'on vient de voir, il y a eu des centaines et des centaines de films faits sur la guerre du Vietnam aux États-Unis, qui est, je pense, le sujet de prédilection d'Hollywood, du cinéma américain. Alors avec des grands films, chez Coppola, Kubrick, Cimino. Kubrick d'ailleurs, vous pouvez le savoir peut-être, qui avait conservé, ça a été mentionné à plusieurs reprises autour de Basic Training, mais qui avait conservé une copie de Basic Training pendant un an, qu'il avait loué à la maison de distribution de Frédéric Wiseman. Et donc Wiseman dit évidemment, et quand on voit Full Metal Jacket, qui s'est très largement inspiré pour toute la première partie du film de Basic Training, avec des séquences même qui sont tout à fait et largement reconnaissables dans le film de Wiseman. C'est un film aussi, Basic Training, qui est tout à fait en miroir avec un autre film de 68, juste avant de Wiseman, qui s'appelle High School, sur un lycée à Philadelphie, dans sa construction, dans cette machine infernale qu'observe et nous donne à voir Wiseman d'un conditionnement comme ça de la jeunesse, d'un système de valeurs, de codes, de disciplines, de conformisme, d'endoctrinement, pardon, avec dans High School une scène parfaitement édifiante qui nous renvoie ici à Passing Training, je trouve, où on apprend aux jeunes à marcher, on leur apprend à marcher. Une femme, voilà, qui professeur, qui leur explique qu'un étudiant, un lycéen, on marche pas comme ça. Il faut apprendre à se tenir, à devenir des adultes respectables. Il y a aussi cette autre scène, dans une bien moindre mesure, dans The Store, son film qui date de 83, où on entraîne des vendeuses là dans un grand magasin, avec leurs éléments les plus importants, que sont leurs sourires ou leurs mains. Et on les entraîne comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, à sourire, à agiter les mains. On en revient au corps, ou comment on s'accapare aussi les corps. Dans Basic Training, il y a quelque chose qui m'a énormément frappée, de prime abord, c'est le rythme du film, qui est très rapide, très tendu, toujours sur un fil, qui tient évidemment du montage, l'image, mais aussi du son, qui a une importance exceptionnelle voilà, dans l'équilibre du film et dans l'équilibre de toute l'œuvre de Wiseman, qui est preneur de son sur ses tournages. Donc on suit l'entraînement militaire, les différentes étapes, le rythme intrinsèque est complètement millimétré, là aussi, de qui est celui d'un entraînement, du réveil au matin, des exercices qui deviennent au fil des jours une routine, ces marches, même ce brossage de dents qu'on va aussi encadrer, on va expliquer comment il faut se brosser les dents. Ça fait partie aussi de cet équilibre tragicomique dont je parlais tout à l'heure, de comment il arrive dans un lieu aussi marqué d'une telle violence à faire émerger comme ça des moments tragicomiques, ouais, parce que c'est incroyable cette séquence, on les voit en rythme se brosser les dents, et en même temps le film il se présente jamais je trouve comme une routine, et ça c'est assez exceptionnel. La seule routine que je vois, c'est une routine sonore, c'est pas qu'on entend tout le temps ces voix, il y a une bande son qui est extrêmement chargée, qui est même là, à voir le film en salle, c'était encore plus déployé quoi. Ces voix, ces instructeurs qui scandent sans arrêt, y a les chants quand ils se déplacent, il y a un volume sonore qui est très très élevé, quasiment tout le temps. Il y a quelques petits moments, cette séquence incroyable de fin de nuit, avec la mise en situation de guerre. Il y a quelques moments comme ça, ce tout petit moment presque de sieste où on voit les appelés qui s'abandonnent un peu avant que l'un d'entre eux ne raconte sa sortie chez une prostituée. Voilà, il y a quelque chose comme ça à l'endroit du son qui nous fait avancer, qui fait avancer le film. Il y a aussi évidemment ces marches continuelles. C'est le seul, je dirais, endroit dans l'écriture aussi du montage, je dirais, au terme d'image, parce qu'on a un spectre tellement large de situations, de ces 8 ou 9 semaines, je ne sais plus combien elles sont, d'entraînement, qui nous donne à voir vraiment un spectre très très large, qui ne fait évidemment que grandir et que nous amener vers cette scène finale et vers ce sourire, ce contentement du commandant. Ce plan de fin devant le drapeau, quoi, où il a réussi sa mission. Et au son, il y a aussi cette routine, justement, à l'endroit de l'endoctrinement qui revient sans cesse, autour de l'ordre, autour de, avec ce discours, si tu ne causes pas d'ennui, tout ira bien, si tu te fonds dans le système, tout ira bien. Voilà, c'est cette routine, elle passe véritablement par le son, me semble-t-il, et par la parole. Y a un travail sur, donc, sur le son, comme je le disais, qui est assez impressionnant, mais aussi sur l'image, évidemment, avec un opérateur magnifique, qui est William Brain, qui a travaillé avec Frédéric Wiseman sur toute la première partie, on ira jusqu'à la fin des années 70, sur Law and Order, sur Hospital, Juvenile Court. Il y a cette alternance constante, mais qui fait partie aussi de la méthode Wiseman, entre guillemets, entre voilà, ces plans larges et ces gros plans, ces plans d'observation, ces plans de gens qui observent tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans filmer des gens qui écoutent, des gens qui observent. Évidemment, là, on a un endroit d'apprentissage et d'instruction. Donc, il y a cet aller-retour permanent. Et y a une construction comme ça qui s'opère entre les corps, les visages, ces espaces où se déploie l'entraînement de manière presque chorégraphique, les cours de lutte, et puis évidemment progressive, comme je le disais, pour arriver jusqu'à la mise en scène de la guerre, quoi, qui est la dernière partie, la toute dernière. Toute dernière séquence avant remise de médaille. Il y a la manière dont il positionne la caméra, qui est donc encore une fois aussi, je pense, dans cette collaboration que Wiseman a avec William Brain, avec son opérateur, assez exceptionnelle. Il y a une liberté et en tous les cas une prise de risque qu'on retrouve un peu moins après, je trouve, mais en tous les cas dans cette série de films dont je parlais, là, des années 60. Il y a des tentatives que je trouve assez incroyables. Les choses se ritualisent un peu plus, me semble-t-il, par la suite. Il y a notamment là cette idée de la caméra est très souvent en contre-plongée, au sens où la caméra est très souvent à l'endroit de la plaie. Il y a par exemple cette séquence au tout début du film où on présente je sais plus comment elle s'appelle, la M16, une des armes, premier exercice autour d'une arme, qui est une séquence assez longue, assez belle d'ailleurs, et on est complètement sous le visage de cet instructeur, puis un deuxième qui arrive, et je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le film, et très régulièrement ça revient, c'est-à-dire qu'on est toujours comme au sol. Quand ils sont en exercice, la caméra est devant et à hauteur d'eux. On pourrait être au-dessus, on pourrait être n'importe où ailleurs, en fait. Mais très clairement, on est toujours au plus près d'eux et presque de leur point de vue ou à leur endroit. Pas tout le temps, parce que justement, je pense qu'il y a cette liberté d'écriture et de filmage qui fait qu'il n'y a pas une grammaire millimétrée. Mais c'est ce que je trouve très beau dans le film aussi. Il y a aussi cette évolution. Avec en même temps que l'entraînement évolue, que la formation des appelés évolue, c'est comme si la manière de les filmer en même temps évoluait au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement figé comme ça. Il y a la présentation de la baïonnette, il y a cette scène à l'église aussi, parce que j'y reviendrai, il y a la question de la religion, évidemment, dans Basic Training, qui a quand même... Et donc ce plan sur l'aumônier qui mène la messe, pareil, qui est complètement au-dessus, avec cette idée aussi de contre-plongée, que suggère la contre-plongée, cette idée d'autorité. Il y a de nouveau un cœur de personnage dans ce film, mais il me semble qu'il y a une figure ou deux absolument bouleversantes, à mon sens, notamment le personnage d'Hickman, ce jeune homme qui a du mal à marcher dans le rang, c'est une des premières séquences qu'on voit de lui, qui a des idéations suicidaires, qui revient à plusieurs reprises comme ça dans le film, et qui pour moi est à un moment donné celui qui pourrait s'échapper du cœur, mais qui en même temps le représente. À bien des endroits, et notamment dans cette séquence vraiment que je trouve bouleversante avec l'aumônier, où il a toujours cette espèce de petit sourire, ce petit rictus un peu nerveux, où il raconte qu'il ne trouve pas sa place, qu'il est moqué par ses camarades, etc. Et cet aumônier dont on découvre en cours de séquence, ça, en tous les cas moi, ça, je serais curieuse d'avoir votre sentiment, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un aumôniste type. Je me dis, bon, on envoie chez le psychiatre, quand le sergent appelle avant, et à chaque fois, ça me le refait. Je me dis, mais... Et puis, d'un seul coup, boum, et finalement, donc, c'est le sauvetage de ce jeune appelé ne passerait que par... il me dit qu'il peut voir un médecin, un psychiatre aussi, mais passerait essentiellement quand même par la religion. Et ce qui lui témoigne, c'est qu'il faut qu'il s'accroche, que s'il a envie de s'en sortir, il faut que ça vienne de lui, de toute façon. Jeune Hickman qui finit quand même par être applaudi vers la fin du film, dans cet exercice avec un gradé avec lequel il se prête au jeu. Il finit par être applaudi parce que lui aussi, comme tous les autres, il va réussir quand même à rentrer dans le rang. Il y a cette séquence aussi du jeune appelé, ce jeune appelé avec noir autour de cette histoire d'article 15. Ils sont en train de fumer des cigarettes. Il y en a un premier qui a été convoqué par le lieutenant. Donc toute cette interrogation autour de la cour martiale, du dossier, qu'est-ce qui reste quand on redevient civil ou pas. Donc ce personnage qui nous rappelle quand même que la guerre n'est pas ici, qu'ils sont en train quand même de jouer à la guerre, de s'y préparer. Ça aussi, je trouve que c'est un moment qui nous amène vers la fin du film, avec cette mise en situation en extérieur, en forêt, cette séquence de nuit complètement incroyable qui va nous arriver après. Et ce personnage, quand même, qui nous dit quelque chose d'absolument effroyable, et pour commencer, qui voudrait être dehors, enfin, on s'en doute, qui veut son cœur et qui veut la vie, et que les États-Unis, ce n'est pas son pays. Les États-Unis, ce n'est pas son pays, et qu'il n'a aucun pays, qu'il n'a plus de patrie. Ça, c'est un moment aussi que je trouve complètement... On resitue quand même l'histoire, le film, l'histoire des États-Unis, on sort de l'année de ségrégation, des droits civiques, etc. On peut comprendre que ce jeune garçon qui se retrouve à l'armée, appelé, ne se sente pas tout à fait de raconter qu'il a envie de défendre son pays. Il y a la représentation de la musique à travers les harmonies militaires, évidemment, les parades, mais surtout aussi cette séquence absolument étonnante, je trouve, de cet appelé qui joue au piano, cette séquence qui suit la séquence de l'église, en fait. Et ce morceau qui pourrait se présenter au début comme un piano bar, sauf que le piano bar chante la gloire de Jésus-Christ, quoi. Chez les appelés, et ça c'est une séquence vraiment à chaque fois que je trouve complètement ahurissante. On a un tout petit peu en arrière-plan, on discerne quelques visages, mais elle est complètement suspendue, elle répond évidemment directement à cette séquence d'église, et je la trouve complètement sidérante, quoi. Et de la place aussi, donc comme je le disais, que trouve l'Église dans cet espace et dans ce camp d'entraînement, que trouve la religion, quoi, tout simplement, mais plus largement aux États-Unis et plus largement aussi dans l'œuvre de Frederick Wiseman, très souvent, parce que finalement les États-Unis, on filme aussi cette dimension, sa dimension et son immense dimension religieuse. Et que là, il y a quelque chose de l'ordre du... tout y est, quoi. Tout est là, tout est agencé, ordonné pour que ces jeunes appelés rentrent dans le moule, quoi, soient complètement encadrés, chapeautés, écrasés, noyés, jusqu'à, encore une fois, cette séquence finale. Dans le film, il y a aussi un peu toute cette idée de la grammaire, entre guillemets, de Wiseman, de filmer tous les éléments, toutes les situations dans le périmètre du territoire, les appelés, les gradés, les instructeurs, quoi, les familles des appelés ou les familles dégradées. Donc il y a l'aumônier, et puis il y a ce tout très très court plan, mais que je trouve très parlant, des femmes qui cousent au tout début du film, qui sont en train de coudre les insignes à la machine. Et ça aussi, ça fait partie dans l'écriture de Wiseman, de comment ce microcosme dont je parlais, cette micro-société, lui, il voit aussi ces personnes-là, et pas uniquement on aurait pu rester à l'endroit de grader et d'appeler, mais il y a ce tout petit plan qui est très court, mais que je trouve très parlant à chaque fois. C'est-à-dire qu'on rentre, il est au tout début, on pénètre une société, vraiment. Il y a ce plan, je ne sais pas si d'entre vous avez déjà vu le film, mais il y a un plan director's cut, un plan du maître qu'il a pu remettre dans son montage, qui n'existait pas, en tout cas moi, dans la version que j'avais pu en voir plus ancienne. Il n'y avait pas cette séquence où un appelé raconte sa sortie chez une prostituée dont je parlais tout à l'heure, après ce temps de pause, après cette séquence incroyable aussi en parlant de religion, où un dégradé parle de la réincarnation. C'est entre ces deux séquences. Il y a d'abord la séquence où un appelé est rabroué, largement rabroué par un gradé parce qu'il a lu un livre, un magazine, il a pris un magazine. Et puis derrière, c'est encadré donc, par la séquence de la réincarnation. Et au milieu, on a cette séquence où un appelé raconte sa sortie chez une prostituée. Donc c'est une séquence qui a été complètement... peut-être Arnaud, tu pourras nous en parler un peu plus précisément, d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment, de fait, historiquement, elle a été enlevée du montage et elle a en tous les cas retrouvé sa place dans le film. Sa très bonne place, qui nous renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure, des équilibres, comment il y a aussi des moments, il y en a très peu dans le film, mais des moments de relâchement, des moments d'abandon, des moments de légèreté, qui témoignent comme ça du quotidien, vraiment dans toutes ses dimensions. Et celle-ci, vraiment, en fait éminemment partie, quoi. Elle est assez... Et on peut très facilement se l'imaginer aussi, je veux dire, en voyant ces jeunes... au quotidien, ça fait partie du quotidien, de se raconter effectivement les sorties. Et ça fait aussi partie, je dirais, tout simplement de l'imagerie, en tous les cas, moi, celle que j'ai, des films de guerre, donc je ne suis pas nécessairement spécialiste, mais il y a toujours cette dimension de la femme qu'on a laissée, de sa copine, et des prostituées. Et il y a cette scène aussi, en parlant un peu d'abandon, de relâchement, où le militaire, le lieutenant, est fait capitaine en présence de sa famille. Donc il y a sa mère, il y a sa femme, son petit enfant. Et au milieu de ça, le type, on dit, vous avez un discours et tout. Ben non, moi j'ai chaud, je voudrais enlever mon uniforme, quoi. Et ça aussi, c'est vraiment des moments assez précieux, je trouve, dans l'équilibre du film. Il y a les débuts et la fin dans l'écriture des films de Wiseman, que je trouve toujours aussi vraiment très important. La séquence d'ouverture ici, avec les jeunes appelés qui sortent du bus, qui arrivent en jean, comme le redit celui à qui on décerne la médaille là, à la parade finale. Ils descendent du bus, ils arrivent les cheveux longs, ils arrivent jeunes, encore insouciants, entre guillemets. Ils ont déjà commencé à perdre leur insouciance, me semble-t-il, mais voilà, en tout cas, ils ont leur jeunesse pour eux. Et puis il y a cette dernière séquence qui lui répond, où ils sont rentrés dans le rang après ces 8-9 semaines d'entraînement, où d'un seul coup, l'institution voudrait nous raconter qu'ils ne font plus qu'un. Et donc il y a ce film qui a été traversé comme ça par ces marches incessantes. Là, ils ont enfilé le costume, l'uniforme, on y est. Et comme je le disais tout à l'heure, le commandant a cette satisfaction immense devant son drapeau de se dire qu'il a accompli sa tâche. Et il y a cette idée de début et de fin dans le cinéma de Wiseman qui est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, tout simplement au cinéma, de comment on fait correspondre, comment on fait résonner. J'ai revu il n'y a pas très longtemps In Jackson Heights, qui est son film qui se passe dans un quartier du Queens, à New York, quartier extrêmement cosmopolite. Et justement, sur ce début et cette fin, je regardais, j'avais oublié, mais il y a vraiment, ça se répond de manière exceptionnelle. C'est un film qui s'ouvre donc sur ce quartier, plutôt en hauteur, on voit le métro, le quartier, on rentre dans le quartier petit à petit, ses communautés, ses étals d'épicerie, ces gens qui discutent au coin d'une rue, on sent qu'il y a beaucoup de langues, beaucoup de communautés qui se frottent. Et puis on arrive petit à petit dans une mosquée. Et le film, à rebours, se termine. C'est un quartier aussi qui a une dimension associative absolument exceptionnelle. Et sur la fin, bah, on voit ces associations qui se redéplient petit à petit. Et puis on finit quasiment sur le même plan que celui du début, par le métro. Mais cette fois, on est de nuit. Et il y a vraiment comme ça, voilà, cette idée d'ouverture et de clôture qui se répond de manière assez tout à fait comment dire, c'est pas le mot, mais tout à fait juste, je sais pas comment dire, il y a un truc presque de l'ordre de du parfait pour moi. J'ai beaucoup parlé, me semble-t-il, je regarde pas l'heure, je m'excuse, mais j'en ai fini en tout cas. Merci pour votre attention.
Je vais juste compléter, enfin, puisque tu m'y as invité, sur la séquence en plus. C'est vrai que c'est un film, c'est beaucoup moins connu que Titty Cut Follies, qui a été interdit de projection publique pendant presque 25 ans. Mais Basic Training... je crois, à la veille de sa diffusion à la télévision publique, et a été ils ont enlevé cette séquence de cet homme, de cette appelé noir qui raconte son expérience de la prostitution, d'une prostituée, et ce qui moi me, il y a quelque chose de presque d'amusant, enfin c'est pas amusant la censure bien sûr, mais j'étais censeur, c'est pas cette séquence que j'aurais retirée du film, on va dire. Ce serait plutôt certainement une séquence dont tu as parlé aussi, de ce garçon qui dit que c'est pas son pays, qui est, je pense, une séquence. Mais disons qu'on voit que c'est le puritanisme américain qui a frappé, en fait. Là, c'est une question de morale et pas de politique, on pourrait dire. Et donc, pour la petite histoire, effectivement, Frédéric Wiseman, quand il a restauré ses films, eh bien, il a remis, sans rien dire à personne, il a remis la séquence. Je ne sais pas exactement, mais sûrement 2020, 2021, 2022. C'est que quand on a récupéré le film ici, enfin le distributeur a récupéré le film ici, il a mis les sous-titres, et puis à un moment donné, les sous-titres, ça n'allait plus du tout. Et puis tout le monde était un peu paniqué, parce que c'est tout ça, toujours des conséquences économiques, hein, tout ça. Et donc le distributeur a appelé Frédéric Wiseman et il a dit oui, c'est normal, j'ai rajouté une séquence, mais il avait prévenu personne. Voilà, c'est la malice de Fred Wiseman qui a frappé. Mais pour cette séquence, ça fait partie des quelques films où Wiseman a eu maille avec la censure, et avec ce carton final très drôle, qui est le même,
beaucoup évolué, hein, depuis.
Voilà, et qui est le même que pour Titty Cut Follies, à quelques mots près. Voilà, donc il y a que les méthodes ont changé depuis le tournage. Voilà, ce qui est, on n'est pas obligé de le croire. Alors merci, en tout cas merci beaucoup Diana. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Tu as parcouru le film. J'aurais peut-être presque envie que tu reviennes sur cette question de l'imaginaire et de l'imaginaire fictionnel. Et c'est vrai que c'est un film vraiment un point. Est-ce que tu peux peut-être pour ton propre imaginaire. Et enfin, voilà, là aussi où je veux en venir, puisque tu en as parlé très très franchement, c'est aussi Wiseman, certainement un des très très grands cinéastes de la condition noire américaine. Voilà. De film en film, et vous verrez notamment, je l'espère, à l'hiver prochain, Public Housing, par exemple, qui est certainement un des films les plus importants sur la communauté noire africaine-américaine aux États-Unis. Enfin, peut-être si tu peux étayer ou pas, hein,
par,
d'ailleurs.
Par rapport à Public oui, Housing Training, ouais. Tu veux dire, oui, ou plus largement. Ouais. Oui, je te rejoins complètement. Ça, c'est, et puis parfois ça sous-tend aussi, je pense à Ex Libris aussi, de la manière dont la narration, voilà, c'est ça, c'est quelque chose de, évidemment là dans un film comme celui-ci, mais comme je le disais aussi en préambule, il y a un peu, c'est aussi toute l'humanité, quoi, mais c'est toute l'humanité dans, enfin c'est de l'humanité dans toutes ses composantes, voilà. Et un endroit comme celui-ci, dans le Kentucky, des États quand même sudistes aussi. Enfin, on est dans des histoires à l'échelle des États-Unis qui nous donnent à voir, voilà, des États. Je sais pas exactement. Enfin non, si, ils sont, pardon, d'Alabama. Enfin, ils sont tous du sud. Enfin, j'allais dire c'est que du Kentucky, mais c'est dit à la toute fin dans le discours de l'appelé qui reçoit sa médaille. Ils viennent d'Alabama, du Kentucky, de Louisiane, je crois. Enfin, c'est vraiment voilà, régional, et c'est donc des États, dans un État sudiste, majoritairement noir. Et nécessairement à l'échelle du film et de l'équilibre du film. Mais c'est ce que je trouve très beau, et c'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples aussi. C'est comment il arrive à faire dialogue. Il y a à la fois Hickman et puis il y a ce type, quoi, dans la même promotion. Et voilà, et on peut se dire Hickman, on entend un peu son histoire familiale, etc. Je ne sais pas d'où il arrive, mais voilà, il faut savoir aussi que les États du Sud sont quand même et demeurent les États les plus pauvres des États-Unis, avec en tête le Mississippi et la Louisiane. Oui, il y a. Wiseman, il a quand même cette capacité, et dès le début, moi c'est ça qui me touche beaucoup en voyant à l'ouverture de la rétrospective Law and Order aussi. Enfin, je veux dire, c'est cet équilibre permanent dans ce que je nomme, voilà, la représentation. Et la représentation d'un État qui n'est maintenant, pendant très longtemps, je disais que c'était un État. Pays, donc continent, comme je disais, les États-Unis, c'était une société à double vitesse, évidemment plus du tout, d'un point de vue, de population. Pendant très longtemps, ça a été blanc-noir, et puis la communauté hispanique, la communauté asiatique, font qu'aujourd'hui, voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes équilibres, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque de Basic Training. Mais c'est quelque chose de de très très significatif dans le cinéma de Wiseman. Et il y a cette séquence, j'y reviens, de nuit là, cette séquence de maquillage aussi qui renvoie à ça, avec ces jeunes appelés noirs qui se maquillent en blanc et vice versa, ce jeu de masques. Cette séquence, elle est quand même complètement incroyable. On en parlait en début, cette séquence aussi avec ses mains qui sont filmées là en voyant en plus en grand écran, je me dis, mais il y a quelque chose de l'ordre du vraiment là pour le coup, pour moi, de la fiction, de l'incursion de la fiction dans ce film. C'est presque une séquence complètement exogène, je trouve. Il y a quelque chose vraiment, ça arrive, je sais pas comment ça arrive là. Ça ressemble, c'est en ça, comme je disais, là, l'écriture est. De ce film est aussi très libre en ça, et donc il y a des moments, oui, c'est impensable dans l'écriture. Là, il y a quelque chose de presque, j'allais dire, surréaliste, quoi. Vraiment de l'ordre du surréalisme, que je trouve extrêmement beau. Et tout ce temps aussi de la mise en situation de la guerre, qui passe par ce maquillage et qui est évidemment une métaphore aussi directe, enfin de l'illusion de la guerre, quoi. On se maquille, on se prépare, on s'habille. Et il y a ce jeu de masques noir-blanc aussi qui s'opère dans cette séquence de manière très forte.
Oui, alors, et c'est vrai qu'on est dans un découpage, vraiment. Et là, C'est là où oui, Frédéric Weisman, qui est très facétieux, qui n'aime pas toujours répondre tout à fait aux questions qu'on lui pose, qui répond toujours par des principes et des règles, qui dit qu'il filme sans intention. Là, on ne peut pas croire que c'est en enregistrant les choses sans intention qu'il a pu faire cette séquence.
Non. Non, après, je me suis demandé s'il n'y avait pas ce truc de... Je disais tout à l'heure qu'il ne répète pas du tout. Mais là, dans un camp d'entraînement comme celui-ci, et c'est très beau d'ailleurs le passage du jour à la nuit là-dessus, sur cette séquence de début d'entraînement, on a presque l'impression... C'est aussi un moment très silencieux, étonnamment, un des moments silencieux du film. On a presque au début, ils sont... C'est un peu très découpé. On a presque le sentiment d'assister à une séance de tai chi avec leurs herbes dans les cheveux, etc. Les feuilles dans les cheveux. Et puis finalement, oui, il y a peut-être cette observation de jour qui permet de nuit de se préparer. Je ne sais pas comment dire. Voilà.
Oui, alors il y a quand même, et ça c'est la seule fois où ça arrive dans ce film, mais ça arrive souvent dans les films de Weisman, il y a quand même le même son sur la scène de jour, puis la scène de nuit. Et c'est un son de nuit, c'est les grillons
oui,
de nuit.
Grillons, c'est
donc c'est évidemment pas du son qu'il a enregistré sur place, c'est une fiction sonore, mais il fait jamais ça. C'est-à-dire qu'il a mis cette séquence dans le même temps imaginaire. Et bon, à mon avis, c'est une faute, parce que ça n'apporte rien. À mon avis, c'est une faute terrible. Mais il fait ça dans chaque film. Dans chaque film, il y a un moment où il fait semblant de raconter une histoire. Mais c'est tellement faible, enfin squelettique, que c'est décoratif, à mon avis. Hein. Moi, j'ai trouvé ça
décoratif. Pas. Moi, au contraire, je trouve qu'elle n'est pas noire.
Oui, mais elle n'est pas documentaire.
Non, mais il ne se revendique pas complètement documentariste non plus, Frédéric Weisman. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, je trouve que justement dans l'écriture de ce film, elle vient souligner cette parenthèse de, et puis cette dernière parenthèse de, comme je le répète encore, de la mise en situation de la guerre. Mmh. S'il y a quelque chose, et ça englobe cette séquence, ça la rend presque fictionnelle parce qu'ils ne sont pas à la guerre. Ils ne sont pas encore partis, ils ont été appelés pour leur service, mais ils ne sont pas encore au Vietnam. Et donc, il la traite de manière, quand je disais... Cette séquence des mains, mais de bout en bout, et je vous rejoins totalement sur la question du son qui lie tout ça, mais ça en fait une séquence presque de fiction, effectivement, à l'endroit. Et pour cela, je ne la trouve pas anecdotique du tout, parce qu'au contraire, elle porte l'idée qu'ils vont certainement partir, mais ils ne sont pas partis. Pour l'instant, on joue à la guerre. Et donc, quand on joue, on fictionne.
Et il me semble que la temporalité est celle du soir au matin. On peut dire que c'est un petit matin et non pas un jour. Mais bon, après, c'est vrai que pas là peut-être pour corriger mes montages, mais et les choix.
C'était juste sur ce point. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai pensé que c'était les militaires qui projetaient le son. Pour les mettre les soldats dans un contexte qui crée une mise en scène en fait.
C'est possible aussi. Hein.
C'est très possible comme mise en situation.
Dans la mise en situation, ouais. Comme les gaz, mm-hmm. On leur met des vrais gaz quand même. On va leur mettre du son de la forêt vietnamienne.
Sur cette question de la fiction sonore, alors elle est compliquée parce que souvent. Il n'y a pas plus reconstruit qu'un son de documentaire, parce que si on se contentait d'une bande, enfin du son témoin, ça serait quand même souvent un peu inaudible. Mais voilà.
Merci. Alors personnellement, ce faux son ne m'a pas étonnée, mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est d'entendre parler d'illusion à propos de la guerre du Vietnam, qui est là. À cette époque-là, qui est vraiment là. Et ces gens ne jouent pas à la guerre. Ils s'entraînent à la faire. Ce n'est pas du tout la même chose, pour moi. Et je crois que dans ce passage auditif, il y a quelque chose comme la présence du Vietnam. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous, sauf sur tout ce que vous dites sur l'illusion de la guerre. Pour moi, ça, c'est inaudible pour moi. Parce que je vivais à cette époque-là, je me suis battue contre la guerre du Vietnam, et c'était une réalité très violente.
Et la guerre, excusez-moi, j'ai peut-être été maladroite, mais je n'ai jamais nié la guerre du Vietnam.
Non, non,
absolument,
je ne dis pas,
pas
que vous l'avez nié.
La réalité de la guerre, des morts, ce n'est pas du tout mon intention.
Ce n'est pas
je
ce
ne
que
refais
je dis
pas
non
l'histoire
plus.
En rien. Je parle juste à un endroit de, là, de représentation, et le cinéma est une illusion.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Mais cet entraînement n'est pas une illusion de la guerre. C'est une préparation
c'est une
à la guerre tout à fait réelle qui existe.
Mais ce n'est pas la
ce
guerre.
Ce n'est pas la guerre.
Non, voilà.
Et c'est la dernière fois où, pour eux, ce ne sera pas la guerre.
Absolument.
Parce que la prochaine fois,
absolument,
ce sera la guerre.
La
et
absolument.
C'est là où je trouve... il y a quelque chose, d'ailleurs, de tragique dans l'idée de simulacre. Et c'est vrai que dans tous ces films militaires, Wiseman travaille la question du faux, du simulacre,
oui.
Et plutôt la question de la fiction plutôt que de la guerre elle-même. On renvoie à Manœuvre, par exemple, à Missile,
à
Missile qui sont des films simulacres, voilà, où la guerre ne tue pas, mais il ne s'agit pas de nier que la guerre tue, bien sûr, et que la bombe nucléaire ne tuerait pas dans Missile, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui? Non? Oui? Oui?
Pour reparler d'illusion, moi, le seul moment où j'ai senti que, justement, comme si ça se croisait, c'est au moment où, alors, c'est la première fois que je le vois, hein, j'essaie de me souvenir bien, c'est le moment où il y a un gradé qui explique aux jeunes qu'on voit depuis le début que lui revient du Vietnam. Hein, je ne crois pas me tromper. Et à ce moment-là, eh ben, la guerre, elle est vraiment là. En fait, on la sent plus dans les paroles de celui qui revient. Et je crois qu'à un moment donné, il refait un plan sur ceux qui écoutent. Et bien à ce moment-là, je ne dirais pas qu'il y a un ange qui passe, mais le Vietnam, on sent qu'il est là, quoi, que ça va leur tomber sur la gueule. Excusez-moi du mot. Voilà, je voulais juste dire ça pour illusion, réalité. Et peut-être que nous, spectateurs, on l'a oublié, entre guillemets. Hein, voilà. Et que là, bang. Excusez-moi, je n'ai pas dit le bon mot.
On a le droit de dire des gros mots, je crois.
Ouais.
On est adultes. Et pour aussi revenir à cette question de la fiction, on voit que, je ne sais pas si vous parlez exactement de ce gradé, mais quand il parle de Patton,
oui.
C'est aussi une construction fictionnelle,
oui.
Et un des grands films, peut-être, qui va... c'est-à-dire que, qui a comment dirais-je, élaboré... voilà, la représentation guerrière, peut-être avec quelques autres, Pont de la River Kwai ou des trucs comme ça, mais on voit très bien qu'il n'y a pas que éventuellement Basic Training qui a construit la représentation fictionnelle de la guerre du Vietnam, mais aussi que ça précède,
oui.
Si vous voulez, la construction de la guerre par la fiction. Ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup à Wiseman, ces allers-retours.
C'est presque un commentaire sur le soldat Hickman. Je crois qu'il est bien isolé des autres, mais il est presque un personnage symbolique parce qu'il parle de la santé mentale. Et on ne voit pas le degré de santé mentale des autres. On présuppose que tout le monde va bien. Et on sait que beaucoup d'entre là, presque tous ont venu avec du PTSD et des formes très aggravantes du PTSD. Ouais. Et alors, c'est intéressant parce que lorsque je regarde le film, je considère que tout le monde, et Hickman est le seul qui est affecté de cette ces idéations suicidaires lorsqu'il vient avec de sa famille. Et c'est intéressant que la session de thérapie est filmée. Et je me questionne comment, qu'est-ce qu'il sentait, Hickman, à ce moment-là, parce qu'on sait que la session de thérapie est totalement personnelle. Et, alors c'est intéressant, il devient un personnage symbolique de cette manière, parce qu'il représente beaucoup l'avenir de ces gens qui vont revenir de Vietnam avec des... Je présuppose des problèmes suicidaires après.
Si, dans ouais. Une
Merci.
Juste une question et une réflexion qui n'a rien à voir forcément, enfin qui n'a pas rien à voir avec le film, mais qui est la suite du film. Est-ce qu'on sait statistiquement combien de ces appelés sont revenus du Vietnam, pour peu qu'ils soient partis ? C'est-à-dire que là, on voit tout un bataillon, je ne sais pas combien ils sont, mais est-ce que statistiquement, on sait s'ils sont partis et combien d'entre eux sont revenus, indépendamment de leur état psychique ? Et réflexion, aujourd'hui, quand j'entends qu'effectivement, la France forme les soldats ukrainiens, c'est ça. Les soldats ukrainiens qu'on nous envoie subissent ça, enfin vivent ça. Voilà, c'est juste une réflexion.
Je ne pourrais pas vous répondre sur la question statistique, malheureusement. Je n'ai pas ces compétences du tout. Je suis navrée. Ouais. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un dans la salle, spécialiste de la guerre du Vietnam, saurait nous éclairer. Je n'ai aucune idée, malheureusement. Mais...
S'il y en a, qu'il se déclare, puisque. Après, sur la question justement du devenir, c'est très, je trouve, intéressant cette remarque sur. Voilà, que avant la guerre, Hickman est un peu le devenir, hein, enfin, si, le devenir si tout va bien, c'est-à-dire revenir quand même vivant, mais revenir traumatisé. Et j'ai vraiment l'impression aussi que, voilà, notamment dans les plans d'écoute, dans cette multiplication pratiquement de portraits, de plans très très brefs, il y a l'idée d'archiver des gens vivants. Et qui, effectivement, quelques mois ne le seront plus. Hein, je crois qu'il y a une dimension quasiment mélancolique du devenir un peu... Peut-être il filme un peu des fantômes, en tout cas pour certains, même si on n'a pas les statistiques. Il y a quelque chose de vraiment tragique, je trouve, dans ces gros plans et dans cette multiplication, cette espèce de galerie presque de volonté d'archiver ces jeunes gens vivants. Oui. Et tu as parlé effectivement que c'est quasiment c'est vraiment un diptyque avec High School, hein, c'est-à-dire et avec une construction qui se finit avec deux personnes qui disent « on a bien fait notre travail, maintenant vous êtes des... » Pour ceux qui ont vu High School, ça se termine par la directrice, je crois, du lycée qui dit qu'ils ont bien fait leur travail parce que quelqu'un dit qu'il est au Vietnam et qu'il va aller défendre sa patrie. Donc il y a vraiment... c'est vraiment un diptyque. On peut jouer aussi à faire des couples entre les films de Weisman et là, c'est un vrai diptyque, je crois. High School, Basic Training. Bien, on en finit là.
C'est 3 minutes d'extrait.
Ah oui, pardon, Diana. Ah non, si, on a tout à fait le temps. Ah non, non. On a tout à fait le temps. Oui, oui. Oui, en plus, non, c'est moi qui avais oublié. Là, je te laisse.
Je vous propose de vous montrer l'extrait d'un film, un très court extrait d'un très court film aussi, qui fait 20 minutes, qui s'appelle Integration Report, qui est un film qui a été réalisé en 1960 par une cinéaste africaine-américaine qui s'appelait Madeline Anderson. Cette femme... est considérée comme la première avec ce film qui est son premier film d'ailleurs, la première documentariste africaine-américaine. Elle a été, pour la petite histoire, et c'est ce qui m'a donné envie, c'est un film que j'ai découvert en travaillant sur cette anthologie là, des cinémas d'Afrique, Tigritude, que j'ai programmé il y a 2 ans et dont Arnaud vous parlait dans ma présentation. C'est un film assez étonnant, vraiment, qui est un film d'archives. Donc c'est une écriture qui est complètement aux antipodes de celle de Whiteman. Mais le lien qui les unit, c'est que cette femme, Madeline Anderson, a été l'assistante de Shirley Clarke, qui était une cinéaste américaine, qui a réalisé un film qui s'appelle The Cool World, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui est un film qui a été produit par Frederick Whiteman en 63, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. 64, c'est Titty Cut. C'était l'année avant Titty Cut. C'était sa première incursion dans le cinéma. Et il a produit ce film un peu hors norme, que je trouve très beau, personnellement. Et Madeline Anderson était la super assistante, au sens où elle était un peu sur tous les fronts, également au montage, de Shirley Clarke. C'est un film qui est constitué d'archives qui ont été des images tournées par des cinéastes qui sont devenus avec le temps très connus, cinéastes documentaires américains comme Albert Mays ou Richard Leacock. Pour Richard Leacock, par exemple, était aussi le directeur du département cinéma du MIT à Boston, ville de Frederick Wiseman, et qui a formé des gens comme Ross McElwee, par exemple. Voilà. Donc je voudrais vous montrer cet extrait, j'en profite, parce que c'est un film rare et qui résonne pour continuer de tirer les fils. Donc il y a aussi avec cette espèce de filiation comme ça d'une certaine manière avec Whiteman, mais ça résonne pour moi en tout cas l'extrait que vous allez voir très fortement avec ce personnage d'Apley dont je parlais tout à l'heure, noir, hein, qui se demande quel est son pays en fait. Là on est sur un film qui documente les luttes autour des droits civiques à travers les États-Unis, et l'archive que vous allez voir là se passe dans le sud et est autour d'une, j'allais dire, proteste, d'une lutte de jeunes d'étudiants qui sont interdits de manger dans un magasin. Enfin, on est en pleine ségrégation et donc ils protestent devant ce magasin. Et voilà, vous allez en voir 3 minutes. Ça s'appelle Integration Report de Madeline Anderson. Voilà. Merci.